Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, donc la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui va essayer de vous apprendre deux, trois bricoles si vous ne les savez pas déjà mieux que nous. Avec donc Jean-Mathias en face de moi, José pour le choix des musiques, la technique et tout un tas de trucs super importants, comme le site internet. Et moi-même, donc Michel, voilà. Alors, vous venez d'entendre un morceau de JB Lenoir, ou de JB Lenoir, Deep in the Debt Blues, donc bien profond dans le blues de la dette. Et comme José fait bien les choses, voilà, c'est en rapport directement avec le livre dont on va essayer de vous parler ce soir. Un livre de David Graeber, dont on avait déjà eu le plaisir, parce que c'était vachement bien de vous parler, à travers son petit livre sur l'anthropologie, pour une anthropologie anarchiste, il y a déjà quelques temps déjà. Mais cette fois-ci, on va parler d'un livre qui est plus célèbre, et qui a fait un petit peu parler de lui dans certains médias alternatifs. C'est son livre sur la dette, 5000 ans d'histoire, qui a été publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et donc c'est un livre d'anthropologie, d'économie, d'histoire, assez solide, je pense. Enfin, en tout cas, avec une bibliographie très fournie, beaucoup, quelque chose d'assez argumenté, qui en même temps se lit très très bien. C'est quand même, c'est pas tous les jours qu'on a des bons bouquins théoriques qui se lisent aussi bien, et qui en plus, enfin, moi me semble très très important, puisque David Graeber essaie de comprendre ce phénomène de la dette. En discutant du point de vue anthropologique avec les économistes. Et il va essayer de remettre en cause, en quelque sorte, toutes les certitudes économiques qui sont bien ancrées dans nos têtes. Genre, je prends un exemple très très simple de choses relativement fondamentales que Graeber attaque de front. C'est l'idée que, si vous voulez, au début, les êtres humains faisaient du troc. Et que pour au bout d'un moment ils se sont aperçus que c'était pas pratique parce que ben il fallait que il y ait deux besoins complémentaires, c'est-à-dire en gros le boucher a pas forcément besoin des chaussures que je produis, donc c'est embêtant le troc. Et ce que Graeber dit, c'est que les anthropologues n'ont jamais pu observer une seule société fondée sur le troc, tout simplement. Et à partir de là, il va reprendre toute l'histoire de la dette et essayer de montrer différentes choses qui sont parfois étonnantes, comme l'idée que la dette précède l'invention de la monnaie, finalement, ou d'autres idées qui, à mon avis, vont beaucoup plus loin, enfin, beaucoup plus loin, je suis pas sûr si elles vont plus loin, mais en tout cas, d'autres idées qui sont à peu près du même ordre en termes de bouleversement intellectuel, comme l'idée que, par exemple, d'après ce qu'on peut constater historiquement, l'État et le marché iraient ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée le marché ? C'est l'État. Alors on y reviendra peut-être plus en détail plus tard, mais en gros le bouquin fourmille d'observations, enfin d'idées assez lumineuses comme ça, et aussi d'observations très très intéressantes sur nos pratiques quotidiennes, dans le rapport qu'elles peuvent avoir avec la notion de dette. Qu'est-ce qui se passe quand on dit s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe quand on dit merci, et ce genre de choses. Alors c'est Jean-Mathias qui va nous en parler le plus. Voilà, donc de David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Voilà, donc, je vais lui donner la parole.
Ouais,
Jean-Mathias, donc.
Ouais, non, d'abord peut-être dire deux mots du bonhomme, hein, de David Graeber, puisque c'est un type qui a aujourd'hui à peu près une cinquantaine d'années, hein, qui a longtemps été, en fait, c'est un universitaire, un anthropologue célèbre aux États-Unis, qui en fait a été longtemps professeur à Yale, à l'université, la prestigieuse université de Yale, dont le contrat n'a pas été renouvelé à Yale, bizarrement, là, il y a quelques années, et qui ensuite a enseigné à Londres et qui actuellement enseigne à la London School of Economics. Donc c'est pareil, on est dans les très grandes écoles, donc c'est quelqu'un qui a une audience, en tout cas universitaire, assez considérable, mais c'est pas tellement pour ça qu'on vous en parle, vous vous en doutez, c'est que c'est aussi surtout un militant. Et ça a été notamment une des références, et puis un des théoriciens, c'est mauvais.
Un des organisateurs aussi.
Un des organisateurs, et en tout cas un militant très actif du mouvement Occupy Wall Street d'il y a quelques temps. Il était aussi assez investi dans le mouvement altermondialiste depuis les années 2000 au fond, et c'est quelqu'un qui a la particularité, bon, c'est pas que il sort pas avec son petit drapeau dans la poche, hein, mais qui est reconnu comme étant un des rares anthropologues anarchistes, un petit peu, alors bon, dans la continuité des intellectuels américains un peu à la Chomsky ou des gens comme ça, c'est-à-dire dans une tradition assez ancienne aux États-Unis. Il a longtemps été syndiqué aussi, ce que j'ai pu lire, là, Graeber, au IWW, là, les International Worker of the World.
Non, c'est pas International Worker of the World. C'est parce que c'est Industrial Workers of the World.
Ok.
C'est les travailleurs mondiaux de l'industrie.
Les travailleurs mondiaux.
International of the World.
Oui, ça fait ça. C'est redondant. Non, plus audace, bah, t'as raison.
José.
Enfin, ce qui est, bon, pour le dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat, le vieux syndicat libertaire américain, hein, en fait, hein, qui a longtemps mobilisé, organisé
C'était du syndicalisme révolutionnaire.
Du syndicalisme révolutionaire américain. Donc, il a longtemps milité aussi dans cette organisation-là. Donc, c'est pas simplement un intellectuel en salon ou un universitaire.
Avec des titres à rallonge.
Voilà. Anthropologue, donc tu l'as dit, bon, tu as déjà dit un certain nombre de choses dans la présentation. Donc le livre s'appelle « Dead, 5000 ans d'histoire ». Donc il a été publié aux États-Unis il y a 2 ans, 2011. Et en France, là, juste cet automne, hein, la rentrée, là, il y a très peu de temps. 100 000 exemplaires vendus quand même aux États-Unis. Hein, donc c'est un best-seller, en fait.
Surtout pour un ouvrage de ce type.
Hein, c'est quand même un gros livre qui se lit très bien, comme tu l'as dit. Mais c'est quand même un gros livre. Et puis c'est quand même une question compliquée. Alors, titre assez impressionnant, Dead 5000 ans d'histoire. Donc, comme tu l'as dit, le projet de Graeber là-dedans, c'est d'adopter un point de vue d'anthropologue, donc d'une étude des sociétés, des rapports humains, pour essayer de comprendre la signification et les mécanismes, au fond, et l'histoire de la dette, dont on nous rabat les oreilles à longueur de temps en termes de politique économique aujourd'hui, puisque vous savez que l'impératif national, la priorité nationale, et quand je dis nationale, c'est, je dirais, continentale et même mondiale, c'est donc de réduire notre dette, enfin en tout cas la dette publique, puisque les dettes privées ne gênent pas grand monde, parce que ça permet aux banques de faire des sous, évidemment.
Et la consommation de se poursuivre.
Et le livre de Graeber est original parce qu'il prend le sujet de manière un petit peu oblique. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, alors il le raconte un peu dans l'introduction. Bon, il est rodé, hein, parce que c'est une anecdote qu'il raconte systématiquement à toutes ses conférences, etc. Mais c'est vrai qu'elle est assez éclairante. En fait, il raconte une anecdote personnelle qui s'est retrouvé un jour dans une fête mondaine en Angleterre, à Westminster Abbey. Et puis, des universitaires, des industriels, des gens très bien, très éduqués, hein, vous vous en doutez. Et puis qu'un jour, il raconte qu'à un moment dans la fête, donc il se retrouve dans le parc, il s'ennuie un peu, tout ça, bon. Et puis, il y a un espèce d'industriel complètement ivre qui arrive.
C'est après, ça, l'industriel ivre.
Ben, c'est lui qui lui présente l'avocate.
Non. Hein. Non, l'industriel ivre, c'est celui qui rompt la conversation.
Ah, il arrive à... Bon, c'est dans le détail, j'avais une autre version sur Internet, sur une conférence Internet. Ou alors, bon, on lui présente en tout cas une avocate et on lui dit, tu vas voir, vous allez bien vous entendre, là, t'as l'air de t'ennuyer, mais elle aussi, elle est militante comme toi, donc elle s'intéresse...
Aux nécessiteux.
Aux nécessiteux, voilà. Et alors, donc en fait, ils commencent à discuter un peu, alors, donc elle est un petit peu incrédule et perplexe sur les effets du militantisme libertaire de Graeber, et puis,
lui, il lui dit tranquillement qu'ils ont détruit le FMI.
Oui, bon, alors c'est pareil, on pourra en reparler. C'est peut-être il y a un optimisme qui est rafraîchissant, bon, des fois peut-être un peu qui me laisse aussi un peu perplexe. Mais donc ils discutent tout ça, et puis elle lui demande à un moment donné sur quoi portent ses travaux. Il lui dit, ben écoute, en fait, voilà, moi je travaille sur la dette et je milite surtout en fait pour l'annulation des dettes, notamment des pays du tiers-monde, mais pas seulement, parce que je considère que voilà, c'est simplement une forme de violence déguisée en quelque sorte, et que il faut en finir avec ça. Et d'ailleurs, j'ai un certain nombre d'arguments historiques, anthropologiques, etc. Il développe pas, et elle le regarde avec un drôle d'air. Puis au bout d'un moment, elle lui dit, mais bon, ok, je comprends tes arguments, l'histoire, tout ça, mais il y a quand même quelque chose, tout cet argent là des pays pauvres dont tu parles, ils l'ont emprunté à un moment donné, donc ils doivent bien le rembourser.
Il faut payer ses dettes.
Et alors il la regarde, ils l'ont déjà remboursé avec les intérêts,
très longtemps,
avec le jeu des intérêts combinés, ça fait longtemps qu'ils l'ont remboursé. Et puis, précisément, si on emprunte avec des intérêts, c'est précisément parce que, justement, pour couvrir les risques de défaut, donc c'est déjà prévu. Après tout, c'est un banquier qui prête de l'argent, il touche les intérêts, puis si on ne le rembourse pas, bah, tant pis pour lui, il a touché les intérêts, justement, pour se dédommager de ce type de risque-là. Bon, il commence à argumenter, puis la nana reste inflexible, toute militante de gauche qu'elle est, en lui disant, bah oui, mais écoute, l'argent emprunté, il faut le rendre, on doit payer ses dettes. Et alors, ça serait, bon, de la façon dont il présente ça, c'est ce qui lui sert un peu de point de départ à cette recherche, hein, en se disant, mais comment se fait-il qu'il y ait cette espèce d'évidence là que lorsqu'on emprunte de l'argent, on doit rendre ses dettes? Et est-ce que c'est si vrai? Est-ce que c'est fondé historiquement? Et en fait, tout le bouquin va essayer de travailler au fond sur ce qu'il appelle cette espèce de ressort moral qui est derrière le discours sur la dette. C'est-à-dire que ce qu'il constate, c'est que à partir du moment où quelqu'un est endetté, il y a comme une espèce d'évidence, hein, que effectivement la personne doit. Et dans une situation d'obligation de remboursement, et une obligation qui n'est pas simplement économique, mais qui est effectivement, y compris de nature morale. Et
donc débiteur est toujours coupable.
Le débiteur est coupable, exactement. Le débiteur est coupable, c'est-à-dire que, ben voilà, il faut qu'il se rachète, il faut qu'il se sauve, il faut qu'il rembourse. On peut dire ça de plein de manières différentes. Et ce qui l'intéresse, c'est justement qu'on peut le dire de plein de manières différentes. Et qu'au fond, petit à petit, plus son enquête avance, plus il va creuser, si vous voulez, rouler sur tous les domaines ou tous les discours au cœur desquels on trouve cette idée de dette. Alors, évidemment, la religion, bien entendu, puisqu'il s'agit de racheter une dette originelle. Et puis, la morale commune, etc. Et puis, bien entendu, l'économie et la politique. Et au fond, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de voir mais comment se construit au cours de l'histoire, quelle est cette idée bizarre selon laquelle, encore une fois, le débiteur serait coupable. Et parce que d'après lui, c'est un des... Alors bon, c'est pas le seul, mais c'est un ressort très très important de ce discours de la dette et aussi des contraintes et puis de la violence, au fait, que recoupe et que déguise, en quelque sorte, ce discours sur la dette. C'est essentiellement cette dimension de contrainte morale. Alors évidemment, il y a aussi les tribunaux, les flics, les huissiers, etc. Mais il y a aussi cette espèce d'évidence, et c'est ça qui l'intéresse, essayer d'aller comprendre comment ça se met en place, est-ce que ça a toujours été comme ça. Et comme tu l'as dit, en fait, son enquête, qui est extrêmement fouillée sur le plan historique, anthropologique, une bibliographie absolument gigantesque, faut quand même le dire, et puis le texte lui-même brasse des données, un nombre de données assez impressionnant. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'au cours de l'histoire, cette évidence-là, que le débiteur est d'une certaine manière toujours coupable et dans l'obligation de rembourser ses dettes, c'est une évidence qui n'a justement rien d'évident. Et que historiquement, la plupart des sociétés humaines, c'est 5000 ans, donc il aborde ça sur une perspective extrêmement longue, sur 5000 ans, parce que ce qu'on découvre, c'est que la plupart des sociétés humaines ont toujours imaginé, à un moment donné, un système qui consiste à liquider la dette et tant pis pour les... Voire à nier la dette.
Il y a cet épisode fantastique des Esquimaux. Un ethnologue qui vit chez les Esquimaux et qui, ou chez les Inuits, ça dépend comment vous voulez le dire, qui revient bredouille de la chasse, affamé, fatigué, et qu'est-ce qu'il trouve devant son igloo? Il trouve un gros paquet de viande. Et il se confond en remerciements pour l'autre Esquimau qui connaît, qui est un ami, qui lui a donné toute cette viande. Et l'Esquimau qui a donné toute la viande de morse qu'il lui avait réussi à chasser... lui dit, non mais, en gros, non mais, où est-ce que t'as appris à vivre? Il ne faut pas m'en remercier pour ça. On est des êtres humains, voilà. Et avec les cadeaux, avec les cadeaux, on fait des chiens, et avec le fouet, on fait des esclaves. Et l'idée, c'est que, d'une certaine manière, alors, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne comptent pas, mais simplement, ils refusent, d'une certaine manière, d'entrer dans cette logique comptable. Parce que, évidemment, les Esquimaux qui donnent la viande, c'est très très bien qu'un jour il va peut-être rentrer bredouille de la chasse et qu'il sera très très content de trouver de la viande devant le pas de son igloo parce qu'un autre Esquimau lui a filé la viande qu'il avait chassée en trop. Donc, vous voyez, ils ne sont pas imperméables à la logique comptable. C'est pas du tout ça. Ils savent très très bien ce qu'ils font, c'est pas des imbéciles. Mais en revanche, ils refusent d'entrer dans cette logique de la dette. C'est un refus pur et simple. Et c'est clair que ce type d'exemple est assez parlant, je trouve, par rapport au projet de Graeber, de justement faire vaciller cette espèce d'évidence qu'il faut payer ses dettes. En gros, d'où viennent les dettes?
Et c'est pas simplement une histoire de savoir-vivre de gens qui vivent dans le froid. Il y a une multitude d'exemples comme ça. Il nous dit, par exemple, on apprend dans la Mésopotamie antique, les rois babyloniens effaçaient l'ardoise des créditeurs dès que ça commençait effectivement à coincer. Dans la Bible elle-même, la Bible quand même, parlons de la Bible un petit peu sur cette antenne. Dans la Bible...
Non, Jean-Mathias, arrête tout de suite.
Il y a une des lois bibliques, la loi du Jubilé, qui dispose que toutes les dettes doivent être annulées automatiquement tous les 7 ans.
C'est un rapport avec l'esclavage.
Voilà, c'est un rapport avec l'esclavage. Et ce qu'il nous dit, voilà, la bizarrerie, en fait, c'est plutôt la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il parle de cet exemple-là d'un juge américain qui vient de condamner à une incarcération illimitée un citoyen américain jusqu'à ce qu'il rembourse une dette de $300. Voilà. Et donc, il met en regard, si vous voulez, voilà, ces pratiques à la fois populaires, mais aussi des pratiques étatiques, c'est pas le mot juste, mais des pratiques politiques ou religieuses qui consistaient tout simplement à dire, à partir d'un moment, la dette, on l'efface, point. Voilà. Alors, pourquoi, sur quoi reposer cette espèce de bon sens, finalement, sur cette idée qu'au fond, derrière la dette, il y a toujours une certaine forme de violence. Et il dit qu'au fond...
C'est-à-dire que c'est une idée de violence qui était très très concrète pendant tout un tas d'années, ou d'époques, ou de cultures, où, quand on était endetté, il arrivait que notre conjoint, enfin notre femme en l'occurrence, parce que c'était l'homme qui s'endettait, que la femme soit vendue comme esclave, que les enfants soient vendus comme esclaves, enfin vendus, non, qui soient pris en gage et qui servent d'esclaves, avec la prostitution, avec tout un tas de choses qui s'en suivaient. Et c'était une violence très très réelle qui a été faite aux gens qui étaient endettés.
Sans parler de tout simplement du lien très intime qui met en lumière entre la question de la dette et de l'esclavage, tout simplement.
Oui,
c'est-à-dire, voilà, on met de l'esclavage
mais,
au sens où...
Mais le souci, c'est que ça détruit le lien social et qu'au bout du compte, oui. Du point de vue d'un gouvernant, ça devient vite intenable. Parce que quand on a des gens qui, en règle générale, les dettes se contractent entre égaux, ça il le dit,
c'est très important. Ouais.
Vous ne pouvez pas contracter de dette auprès de quelqu'un qui est beaucoup plus riche que vous, qui est beaucoup plus pauvre que vous. Parce que là on est dans le don, d'une certaine manière. On s'attend, c'est très difficile de faire un cadeau à un roi, c'est impossible d'attendre un retour d'un misérable à qui on donne quelque chose. Donc la dette, elle va se produire entre égaux, sauf qu'elle va briser cette égalité. Mais elle peut la briser à un degré qui est aussi destructeur du lien social, presque dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup de cette institution qui consiste, et qui est très récurrente, qui consiste à effacer les ardoises. À dire, voilà, maintenant il n'y a plus de dette. Donc c'est pas simplement en termes de quand il parle de violence ici, de violence de la dette, c'est une violence qui est physique,
bien entendu,
qui s'applique sur les corps
et qui est une violence aussi de conquérant, hein, c'est ce qu'il explique, hein, voilà, un conquérant, Alexandre le Grand, il arrive effectivement, bon, il massacre l'armée du pays dans lequel il arrive, et puis ensuite, eh bien, d'une certaine manière, les gens qu'il ne tue pas, hein, ils lui doivent la vie, et ça, on a le historiquement, il nous dit, c'est très clair. C'est-à-dire que on a une origine très 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 simple, hein, de cette idée de dette. C'est effectivement le vainqueur, hein, qui accepte, dans sa grande bonté, de pas tuer tout le monde, mais qui du coup effectivement réduit une population en esclavage. Et le ressort de la dette, fondamentalement, il est là. Et effectivement, à l'intérieur d'une société apaisée, quand on n'est pas dans une situation de guerre ouverte ou de conflit ou de conquête, hein, effectivement, dans une société donnée, ben, historiquement, ce qu'il montre, c'est que, pour les raisons que tu viens de dire, il y a justement des mécanismes qui sont prévus pour effacer ça, ou en tout cas pour atténuer cette violence initiale. Mais historiquement, la dette, elle est là. C'est d'abord le conquérant, hein, qui exige effectivement de celui à qui il a laissé la vie.
Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Il parle aussi des rois qui doivent entretenir des armées.
Alors ça, c'est le deuxième moment. Ça, c'est
très... Je te crame.
Non.
Bon, on va peut-être lancer un morceau de musique, histoire de pas cramer tous tes vaisseaux. Donc, vous allez écouter Sam Cooke and the Stool Stirrers. Jesus paid the debt. Paid the debt. Jésus a payé la dette.
I was a wanderer.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie, alors dans une émission consacrée à David Graeber, donc l'anthropologue anarchiste, on pourrait dire presque célèbre, et donc à son livre « Dette, 5 millions d'histoires » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Et voilà, je vous rappelle que vous venez d'entendre Sam Cooke and the Soul Stirrers, « Jesus paid debt ». Donc Jésus a payé les dettes. Et donc c'est bon à savoir. Alors comme disait Nietzsche, c'est quand même un truc formidable, quoi, parce que on est débiteur par rapport à Dieu. Et donc là, on a affaire à un créancier super sympa qui nous envoie son fils en sacrifice pour qu'on lui en rembourse ce qu'on lui doit. Ouais. C'est génial, c'est comme ça des mecs qui nous donnent ce qu'ils possèdent pour qu'on les rembourse avec. Ouais. Alors.
Alors oui, donc j'enchaîne.
Oui, vas-y, enchaîne.
Donc on parlait à l'instant là avant ce titre extraordinaire que des origines au fond guerrières et militaires et de la violence finalement initialement guerrière qu'il y a derrière les mécanismes de la dette. D'après Graeber, historiquement, encore une fois, la dette elle se met en place avec une certaine forme d'esclavage, c'est-à-dire le conquérant accepte de laisser la vie.
C'est-à-dire que avant la dette, ce qu'il explique, c'est qu'en fait on a des systèmes qui sont pas du tout des systèmes de troc, mais on a des systèmes d'échange différé en permanence.
Et son histoire, en fait, c'est ça.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que non, on trouve pas de système de troc, sauf dans les sociétés qui connaissent déjà la monnaie ou qui sont en conflit. Et avant la dette, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a juste, mettons, machin va voir Bidule, machin a besoin d'un truc que Bidule possède, il lui dit, Bidule lui donne, en disant prends-le, c'est à toi, j'en ai pas besoin. Mais un peu plus tard, si Bidule a besoin d'une autre chose, il va aller voir machin et il va lui dire ah, il est beau ton truc là-bas.
Mais au fond,
il n'y a plus de dette. C'est-à-dire qu'entre des gens qui se connaissent et qui ont une nécessité d'entretenir de bons rapports de voisinage, d'une certaine manière, il ne peut pas y avoir de dette.
Mais son idée, c'est que, là, au fond, l'idée de dette, elle est solidaire de l'idée d'un marché.
Oui.
D'un marché et de biens personnels. C'est-à-dire des choses qu'on peut effectivement, et de l'existence donc d'une monnaie. Et en fait, au fond, tout le projet de Graeber, c'est, me semble-t-il, si j'essaie de résumer ça un peu à grands traits, c'est essayer de démonter finalement le récit habituel des économistes tout court.
Depuis
Adam Smith, qui consiste à voir au fond l'émergence du crédit comme le dernier étage de la fusée. Le crédit, donc le système de dette, la banque, etc. Le dernier étage de la fusée, ça serait ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a des sociétés organisées de manière un peu primitif qui fonctionne sur la base du troc, mais le troc est déjà, d'après Adam Smith, une espèce d'embryon d'échange commercial, c'est-à-dire qu'on échange des biens dont on considère qu'ils ont une valeur équivalente. Donc il y a déjà l'idée, si vous voulez, qu'il y a quelque chose, une valeur impersonnelle qu'on va du coup pouvoir, dans un deuxième temps, mesurer. Donc le récit d'Adam Smith, c'est ça, c'est d'abord le troc, ensuite la mise en place de la monnaie, et ensuite la mise en place du crédit. La monnaie servant simplement à matérialiser cette espèce de valeur impersonnelle des objets qui serait échangée depuis toujours dans toutes les sociétés pour retrouver avoir des échanges qui soient équivalents. Et la grande histoire du marché pour les économistes depuis Adam Smith, c'est ça. Troc, monnaie, puis crédit. Et donc, au fond, tout ça est finalement frappé au coin du bon sens, apparemment. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui gagnent en complexité, en organisation, et aussi qui rendent leurs échanges de plus en plus pratiques, de plus en plus fluides et de plus en plus satisfaisants pour les acteurs du marché. Tous les acteurs du marché. Et en fait, ce qu'il essaye, lui, de montrer, c'est que historiquement, cette grande histoire du crédit, mais aussi de la monnaie, mais aussi des marchés en général, en fait, cette histoire ne tient absolument pas la route. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune société qui a évolué de cette manière-là. Et d'ailleurs, on peut prendre le problème de manière plus basique, c'est qu'il n'y a aucune société qui a jamais fonctionné sur le troc. Parce qu'effectivement, ce qu'il explique, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est pas la plupart des sociétés humaines, pour autant qu'on ait les éléments qui permettent de reconstituer le système d'échange initial, la plupart des sociétés humaines, elles ne fonctionnent pas au départ sur une base de troc, d'après lui, mais exactement comme tu dis, sur finalement des relations de confiance, de voisinage, qui n'ont rien d'impersonnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on emprunte à un voisin et on est d'une certaine manière structurellement débiteur à l'égard des gens à qui on fait confiance. C'est-à-dire que ce qui est premier, C'est pas le troc, et du coup le calcul d'intérêt et la recherche d'un échange équivalent et juste entre des personnes qui calculent, etc. C'est pas ça du tout qui est premier. Ce qui est premier, c'est la confiance ou la méfiance, d'ailleurs, à l'égard des gens avec qui on est directement en contact. Donc, d'une certaine manière, c'est le crédit.
Ce qui est premier, c'est la dette.
Ce qui est le premier, c'est la dette. C'est la dette. Mais du coup, la dette, pas au sens où on la connaît après, ou telle qu'elle est constituée dans les discours économistes. La dette comme, en fait, échange de confiance ou de méfiance, en quelque sorte, basé sur la confiance ou la méfiance. Et il a une formule que je trouve, pour le coup, assez géniale, parce qu'il explique que, donc, d'une certaine manière... La formule, je vous la donne telle qu'elle. Il pose la question, qu'est-ce qu'une dette en fin de compte? Et c'est la réponse de Graeber, c'est une dette, c'est la perversion d'une promesse. C'est une promesse qui est doublement corrompue par les mathématiques et la violence. Et là, on a une espèce de résumé vraiment éclairant de ce qu'il essaye de montrer en s'appuyant à la fois sur l'histoire et l'anthropologie. C'est-à-dire qu'au départ, on a des échanges qui sont effectivement des échanges de promesses. Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on emprunte à un voisin et il constate une chose très simple. Il dit, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est effectivement assez clair, à partir du moment où vous rendez quelque chose qu'on vous a prêté, ça revient à dire, ciao, je veux plus te voir. Voilà. Donc ça veut dire que la plupart des relations, des relations humaines immédiates, en quelque sorte, la base des relations humaines, d'après lui, c'est plutôt effectivement des questions de confiance, de méfiance. Donc quelque chose qui ne relève pas de la dette, lui, il préfère parler de promesses, effectivement.
Oui. C'est l'idée qu'on doit toujours quelque chose aux autres en même temps.
On doit toujours quelque chose aux autres.
Et quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il nous ait donné auparavant, d'une certaine manière, au sens, tant qu'ils sont dans notre société, du point de vue d'un anthropologue.
Et encore, il faut s'entendre sur le on doit quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne le doit pas au sens économique du terme. On ne peut pas calculer cette dette-là.
C'est-à-dire que le problème, ça va être justement quand on commence à essayer de calculer ça.
Exactement.
Et de le monétariser.
Et donc, et ce qu'il explique, c'est qu'au fond, alors, il y a d'une part le grand récit des économistes depuis Adam Smith, qui repose sur rien du tout, historiquement d'après lui. Et puis, il y a l'histoire réelle du marché. L'histoire réelle du marché et l'histoire de la dette, qui fonctionne au fond avec, comme pareil, un certain nombre d'étages, mais c'est pas du tout ce dont nous parle Adam Smith. Le premier étage, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire c'est l'esclavage. Le deuxième, c'est la monnaie. Parce que c'est comme ça que c'est là-dessus que va s'appuyer en quelque sorte l'idée de dette et ensuite l'idée générale de marché. Et la monnaie, elle apparaît comment? C'est très intéressant aussi, ça, effectivement, ce qui nous explique. C'est que la monnaie, au fond, elle apparaît avec la guerre. Qu'est-ce que c'est la monnaie? C'est le seul moyen que des troupes occupantes ou des troupes qui sont en territoire conquis peuvent avoir pour acheter des biens. C'est-à-dire qu'évidemment, vous voyez débarquer une armée de conquérants chez vous, vous n'allez pas commencer à leur faire confiance, vous n'allez pas leur prêter des choses, vous n'allez pas accepter, s'ils vous promettent qu'ils vous donneront en échange, vous n'allez pas y croire. C'est-à-dire que pour faciliter les échanges et les transactions des armées d'occupation, entretenu par l'État. Alors l'État, il faut s'entendre parce que c'est là il est sur 5000 ans, donc il y a 5000 ans, c'est difficile de parler d'État, mais en tout cas
pas l'État tel que nous on le connaît, mais en tout cas un gouvernement qui a un monopole relatif sur l'usage de la violence légitime.
De la violence légitime, ça on peut dire ça, on peut dire ça comme ça, voilà.
C'est une question de
conquérant et de chef d'armée au départ, c'est essentiellement ça. Et pour pouvoir effectivement,
comment est-ce que je fais pour que mes armées restent avec moi?
Exactement. Pour qu'elle reste avec moi et puis pour qu'elle puisse échanger. Voilà.
Et en gros, il faut qu'elle bouffe.
Il faut qu'elle bouffe.
Il faut qu'elle puisse s'installer. Il faut qu'elle puisse faire des choses. Et donc, il faut qu'elles aient des trucs pour échanger.
C'est ça. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'installer définitivement dans une logique de pillage.
Mais ça suppose aussi de lever un impôt.
Alors, ça suppose ensuite de lever un impôt, bien entendu.
Donc, d'avoir une monnaie, mais donc aussi de créer un marché.
Bien entendu. Mais les trois étapes, c'est ça. C'est esclavage, monnaie, marché, et qui donc va ensuite supposer l'impôt. Et ça, je trouve que c'est assez stimulant, en fait, comme manière de...
Ben, clairement, parce que l'histoire libérale de ça, c'est en gros, le commerce adoucit les mœurs.
Exactement.
C'est-à-dire que, voilà, l'argent, le commerce, existent pour pacifier. Et ce que Graeber essaie de montrer, c'est qu'en fait, ces choses-là apparaissent avec la guerre.
Exactement. C'est-à-dire que l'acte de naissance est complètement inversé de ça. Et donc, cette naissance de la monnaie, ça, je trouve ça assez fascinant, comme enquête historique de la part de Graeber, de montrer que c'est la seule chose, finalement, que les troupes d'occupation ont à offrir à ceux qu'ils occupent, de manière à pas être systématiquement dans le pillage. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, c'est le pillage. Mais si les troupes, effectivement, s'installent, et pour que l'Empire soit pérenne, et pour que l'occupation dure, il faut qu'on trouve autre chose. Et alors, là où ça se combine avec l'esclavage initial, c'est que bien évidemment, la monnaie, elle doit être faite en métaux rares. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, dans la plupart, sous toute l'Antiquité? Que font les conquérants? Ben, ils commencent par mettre les populations occupées au boulot dans les mines pour extraire les métaux rares. Voilà. Qui vont servir à frapper les monnaies avec lesquelles les soldats d'occupation vont leur acheter des choses. Mmh. Voilà. Et là, on a un système qui commence à tourner. Ouais. Qui commence à tourner parce qu'effectivement, avec l'apparition de la monnaie, ça rend aussi possible l'apparition d'un marché. C'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger des biens, effectivement, sans connaître les personnes avec qui on est. On va pouvoir
parce que
étendre.
La monnaie, de ce point de vue-là, on est très très loin justement du doux commerce de Montesquieu. La monnaie, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le moyen d'échanger des choses avec d'autres personnes sans avoir de relations sociales avec
absolument.
Eux.
Absolument.
De ce point de vue-là, la monnaie, c'est un truc de sauvage. C'est j'en ai rien à foutre de toi. Je m'en tamponne. Tout ce que je veux, c'est que ce que tu possèdes, et en échange, je te donne ça. Et l'échange, il est immédiat, et donc il est destructeur de la relation sociale. Enfin, il est comment dire? Il suppose la relation sociale inexistante dès le départ. Je te donne tout de suite ce que je te dois pour ce que tu me donnes. Et à partir de là, on peut ne jamais se revoir. On n'a pas de dette l'un envers l'autre. Et c'est ce qui est intéressant, c'est justement toute cette, je trouve, dans la perspective de Graeber, c'est qu'il massacre totalement tout le mythe du doux commerce qu'on trouve chez Montesquieu, chez Adam Smith et chez tous les libéraux qui ont suivi. Genre, le commerce unit les hommes. Non. En fait, le commerce suppose la séparation.
Suppose la séparation, bien sûr, de l'acheteur et du vendeur.
Hein. Complètement.
Et effectivement, et toute son enquête, c'est essayer de montrer effectivement comment historiquement ça se met en place, tout ça. Hein. Donc d'abord de la guerre. La conséquence de la guerre et de la défaite des uns et de la victoire des autres, c'est de réduire les gens en esclavage. Comment ça s'amorcer, ces idées de dette-là? Cette idée qu'effectivement, je t'ai pas tué, donc tu me dois la vie. Hein? Et quand on dit la vie, ça veut dire c'est tout ce qui va avec. Voilà. Celle de ta femme, de tes enfants, mais aussi ton travail, mais aussi tes richesses, mais aussi tes biens, etc. Donc là, on a quelque chose qui se met en place. Il y a une armée qui est sur place, qui est à nourrir. Bon, il va falloir qu'elle puisse échanger sans être dans le pillage permanent, parce que ça dure pas, ça n'a qu'un temps, le pillage. Donc, on commence à battre monnaie. Pour fabriquer cette monnaie, ben justement, on a de la main d'œuvre sous la main qui nous doit la vie. Allons-y, c'est parti. Et une fois que tout ça est en place, qu'est-ce qui se met en place? Et bien effectivement, des marchés. Hein, ce qui va permettre de passer à une approche strictement marchande et commerciale, hein, quelque sorte des échanges, et qui est une manière ben, aussi, et d'abord évidemment, de dissimuler la violence initiale sur laquelle repose tout cela. Alors, il nous dit qu'effectivement, ça, c'est l'acte de naissance réel, historique, hein, des marchés, de la monnaie et du système de dette, d'emprunt, effectivement, et de tout ce qui va avec. Et bien sûr, après, tout ça a des conséquences, évidemment, incalculables, quoi. Alors, c'est-à-dire que, dans la durée, il n'est pas étonnant, hein, nous dit Graeber, que du coup, la plupart des sociétés aient cherché, en quelque sorte, à mettre en place des systèmes de défense des gens qui étaient endetté. Parce qu'effectivement, sinon, d'une certaine manière, il y a aussi une question d'efficacité derrière ça. C'est-à-dire que sinon.
Pragmatique. C'est la guerre civile.
Exactement. Sinon, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile qui se déclenche. Et puis, d'une certaine manière, tout le discours autour de la monnaie et du marché ne tient plus, en quelque sorte. Hein. Donc, on a une espèce de truc à deux temps. Quoi. C'est-à-dire que d'abord, ça se met en place par la force. Et puis ensuite, bon, bien avant Adam Smith, bien évidemment, on habille ça voilà, en expliquant que c'est dans l'intérêt bien compris de tout le monde, quand même, avant qu'Adam Smith le théorise. Hein. Et pour que ça reste vraiment crédible, cette affaire-là, eh bien, il faut, d'une certaine manière, que les dettes soient effacées régulièrement aussi. Hein. D'où, évidemment, la loi du jubilé biblique d'effacer les dettes, les ardoises. D'où aussi la méfiance de la plupart des religions, il faut le dire, l'islam, le christianisme à l'égard de l'usure, bien évidemment, hein, et du prêt. Hein. Ça, c'est une chose plus connue.
D'où le fait que les rois aient forcé les juifs à être usuriers.
Bien entendu.
Pour pouvoir, un, s'en servir comme banque, et puis deux, pouvoir se retourner contre eux quand ça se tournait mal, aussi.
Ouais.
C'est lié.
Et alors, il ajoute aussi, donc, alors après, évidemment, tu parlais d'État tout à l'heure, hein, mais bien évidemment, pour que tout cela fonctionne, pour que cette monnaie ait une valeur stable, pour que les marchés soient sécurisés, que la propriété puisse se constituer, etc., etc., évidemment, sur le long terme, mais il prend les choses, évidemment, de beaucoup plus loin, Graeber, hein, mais sur le long terme, on a aussi cette émergence progressive de l'État moderne, mais aussi, c'est pour vous dire un petit peu l'ampleur aussi des enjeux hein, que Graeber semble discerner là-dedans. Il y voit aussi une approche possible et une explication possible de la naissance des discours religieux. C'est-à-dire qu'il nous explique ça, en fait, on a à peu près on a plusieurs étapes, là aussi, très souvent, qui se mettent en place. Là où se développe le complexe armée, pièces de monnaie et esclaves, là, dont on venait de parler, là, ce système-là, éclosent très souvent des philosophies matérialistes, hein, c'est ce qu'il observe, c'est vrai sous l'Antiquité, mais c'est vrai après. En réaction, on a des philosophes qui explorent les idées d'humanité et d'âme, en quelque sorte, et du coup, vont éventuellement, rapidement être amenés à tenir des discours religieux autour de ces idées-là. Et ces idées-là vont ensuite servir, en quelque sorte, voilà, de rempart, ou en tout cas d'étendard pour ceux qui sont endettés, hein, mais qui donc vont chercher justement à racheter leur dette ou à apurer leur dette après la mort, bien évidemment, hein. Donc le discours religieux, alors c'est une autre version de l'opium du peuple de Marx, en quelque sorte, mais appuyé sur, hein, une espèce d'histoire des marchés, d'histoire de la dette et d'histoire de la monnaie, hein. Montrer comment justement la mise en place de ces marchés du marché de l'argent et du marché, voilà, de la banque et du crédit, hein, comment la mise en place de ça va conduire justement à des philosophies matérialistes, en réaction à des philosophies qui, au contraire, vont insister sur l'importance de l'âme, etc. Et puis donc à des religions qui vont se mettre du côté toujours des opprimés, hein, en leur disant, ben voilà, mais vos dettes, voilà, elles seront soldées plus tard. Pas seulement plus tard, parce qu'on voit que dans la Bible, elles doivent aussi être soldées tous les 7 ans, ici et maintenant. Hein. Mais c'est... Alors, bon, je ne sais pas exactement ce que ça vaut, cette interprétation-là, du point de vue historique. Ce qu'il en dit est plutôt intéressant, ça a l'air convaincant. Après,
Surtout, il incite pas mal sur le fait que les religions sont obsédées par la dette. Elles réfléchissent beaucoup là-dessus.
Et bien, elles y réfléchissent en des termes précisément religieux, c'est-à-dire
c'est très mélangé, c'est-à-dire que le vocabulaire de la dette est ultra présent, omniprésent dans les religions, et en même temps notre vocabulaire religieux, a transformé le vocabulaire de la dette, mais il s'y réfère presque perpétuellement, que ce soit la rédemption, qui signifie littéralement le rachat. Racheter ses dettes, c'est ça. Se rédimer, c'est racheter ses dettes, ni plus ni moins. Vous en avez tout. Il en donne des tonnes d'exemples.
Et ben, ce qu'il explique, c'est ça, c'est qu'en fait, le tort essentiel des religions, c'est qu'en fait, elles utilisent la langue de l'ennemi, en fait. Oui. Précisément la langue de la dette. C'est-à-dire que c'est à la fois une réaction contre la dette, enfin contre la dette au sens large, hein, voilà, et contre les dettes économiques, mais qu'évidemment on reste dans ce vocabulaire-là, dans ce mode de pensée, et ce qui donne effectivement des espèces de trucs assez chimériques comme la rédemption, le rachat après la mort, etc.
Voilà. Alors on va faire une petite pause musicale. Donc José nous a sélectionné un morceau du groupe Ocosystem qui s'intitule Décapitalisme. Donc c'est un groupe bizarre, un groupe marseillais-breton. Vous pourrez trouver le lien sur notre site internet Jeudi Noir Gurdulu. Enfin, vous tapez Gurdulu Jeudi Noir et vous le trouvez, je pense. Et voilà, donc Ocosystem Décapitalisme.
It's clear. mon cerveau se livre, ton rôle est d'être conforme, pas de fond gravé chez l'homme.
Comme la protège par le pouvoir, pouvoir dominé par les dollars. T'as voulu la démocratie, tu subis la bureaucratie. Mais capitalisme.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième, je crois, et dernière partie. En tout cas, je suis sûr que c'est la dernière, si ce n'est pas la troisième. Et vous venez d'entendre Oco System, un morceau qui s'intitule Décapitalisme, d'un groupe marseillais breton. Voilà, il y a des choses comme ça bizarres qui se produisent.
C'est pas des bretons marseillais, t'as dit tout à l'heure.
Ou des, ouais, enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et vous pouvez, si ce groupe vous intéresse, vous trouverez le lien sur notre site, donc Jeudi Noir, tapez Jeudi Noir, Gurdulu. Voilà, et c'est facile. Voilà, comme ça, vous aurez en plus accès à toutes nos formidables émissions passées qui ont été mises en ligne par José avec, voilà, avec des liens sur les groupes de musique et tout un tas de choses comme ça. Très, très chouette. Voilà, alors Jean-Mathias, donc, tu vas continuer à nous parler avec mes interruptions intempestives. Donc de David, du livre de David Graeber.
Naïf, mais pas toujours. Enfin bref.
Voilà, donc intempestif, j'ai dit, hein, pas naïf. Donc du livre de David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire, aux éditions donc, des Liens qui libèrent. Alors vas-y, t'as 30 secondes avant que je t'interrompe.
Bon, maintenant je sais pas quoi dire.
Donc... non mais moi je suis pas... pardon.
Donc... Donc oui, pour terminer, peut-être de dire un petit peu, de repartir un peu de ce que tu évoquais au tout début, c'est-à-dire au fond...
Lors de ma première interruption, tu veux dire ?
Ta première interruption. C'est-à-dire qu'il faut pas s'imaginer, bien sûr que Graeber aurait aussi une vision naïve des choses et que d'une certaine manière, il y aurait une espèce d'âge d'or perdu des relations sociales ou des relations humaines ou des échanges non marchands. Mais simplement, donc au fond, ce qu'il s'efforce de faire, hein, c'est ce qu'on disait, c'est démonter, un, les foutaises économistes, qui justifie ça comme une espèce de développement naturel des sociétés humaines.
Et qui justifie aussi la discipline elle-même économique.
Tout à fait.
Et alors, donc la position des économistes qui en vivent.
Évidemment. Mais donc il y a cette première foutaise qui démonte. Il y a aussi, on l'a dit, les foutaises religieuses et morales qui vont avec. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, son idée, c'est qu'il y a une espèce d'importation, en fait, de cette espèce de promesse viciée qu'est la dette, hein, dans le domaine moral et religieux, et qu'au fond, la morale et la religion n'en sortent pas. Et qu'en fait, elles ne font que déplacer le problème, mais elles gardent les mêmes catégories, elles gardent les mêmes problèmes. Et... son idée, c'est quoi ? C'est qu'il reste quelque chose de profondément humain, si on peut dire, y compris derrière les mécanismes de la dette. C'est le fait que c'est un mécanisme qui suppose, tu disais tout à l'heure, que le débiteur et le créditeur sont à égalité. C'est-à-dire qu'ils sont censés... tout se passe comme s'ils avaient fait un contrat. Alors évidemment, ils nous montrent à quel point cette idée est fausse et à quel point il n'y a pas de contrat derrière, mais avant tout une relation de violence maquillée par tout un tas de choses. Mais son idée, c'est que, encore une fois, la dette reste quelque chose de contractuel. Et pourquoi c'est potentiellement explosif, ça ? Ben parce que précisément, la dette tient un discours qui a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire qu'elle me dit, tu dois me rendre exactement ce que je t'ai donné, plus évidemment les intérêts qu'on s'est fixés, avec effectivement la contrainte et la domination que ça implique. Mais c'est quelque chose qui est censé se passer entre des individus égaux. Et c'est la raison pour laquelle il soutient que la dette, c'est très souvent le ferment des révolutions. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui effectivement à qui vous devez des sommes plus ou moins importantes, mais qui vous dit effectivement tu dois me le donner, tu sais bien, tu dois me donner, c'est dans le contrat. Mais derrière il y a cette idée, mais après tout, qu'est-ce qui m'emmerde celui-là, quoi ? Qu'est-ce qui m'emmerde celui-là ? Qui il est, hein, pour donner, oui, effectivement, pour donner, dire la. Il y a une formule qui est marrante. Il dit effectivement quelque part, au fond, nous, on garde cette idée que personne n'est légitime pour fixer notre valeur et donc pour dire ce qu'on lui doit. Voilà. Et il y a ça qui est au cœur, finalement, du mécanisme de la dette. C'est que, bon, indépendamment de tous les systèmes de répression et d'extorsion, voilà, hein, très concrets qu'il y a, mais du point de vue du discours de la dette et du concept de dette, il y a cette idée-là, et qui reste, voilà, potentiellement très explosive, hein, cette idée que lorsque quelqu'un exige de moi un remboursement ou exige de moi, effectivement, que je règle mes dettes, il y a toujours cette possibilité que au fond... Je l'envoie bouler en lui disant, mais après tout, qui est-il pour exiger ça de moi ? Et alors, qu'est-ce que ça serait d'une certaine manière ? Il développe pas de programme d'une société libérée de tous ces mécanismes de dette et tous ces discours et ces systèmes de pensée qui l'accompagnent. Mais une société dans laquelle on pourrait retrouver une forme d'échange qui soit pas structurée comme ça de part en part par la dette et par la monnaie et la marchandise, ça serait d'après lui finalement une société dans laquelle les échanges, le meilleur moyen de se prémunir de ça, c'est au fond, lorsqu'on nous prête quelque chose, de rendre toujours plus ou toujours moins. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il dit qu'au fond, le régime normal des échanges humains, c'est celui-là. Hein, un régime qui n'est pas marqué par la violence et qui n'est pas marqué par la contrainte et la domination déguisée, c'est toujours celui-là. C'est-à-dire finalement le plus sain. Hein. C'est-à-dire qu'on me prête quelque chose, bon, bah, je rends moins, ce qui veut dire que bah, du coup, on doit se revoir parce que je suis débiteur. Mais on peut aussi rendre plus. On peut aussi rendre plus. Hein. C'est une manière de dire, bon, bah, ça continue, tu vois, je te fais confiance. Je sais que cette relation n'est pas terminée. Hein. Alors il parle, il y a des exemples, hein, qu'il utilise.
Il les développe assez longuement, ouais, dans les détails. C'est des exemples qui sont grandioses. Rien que pour ça, le bouquin vaut d'être lu, à mon
exactement
avis.
Exactement. Il y a par exemple cet exemple des Tives, là, qui est un peuple de l'Afrique de l'Ouest, hein, alors qui développe bien. Il explique donc que c'est un peuple dans lequel les femmes tissent des liens en se faisant des petits cadeaux mutuels, en prenant garde à ne jamais répondre à un cadeau par un objet de valeur équivalente. Parce que précisément, quand on rend.
Et jamais trop tôt.
Jamais trop tôt non plus.
C'est au bon moment, il faut attendre un petit peu, voilà, faire ses visites, rendre un petit peu trop, un petit peu moins.
C'est ça.
Et puis refaire des visites, hein,
fini. Et si le cadeau vaut 3, hein, il explique, il faut répondre par 2 ou par 4. Pourquoi ? Parce que ça nous donne toujours, effectivement, ça donne la possibilité de poursuivre la relation.
Ça donne toujours une raison d'aller se revoir.
Voilà. Régler ses dettes, c'est toujours la même chose. Régler ses dettes, c'est mettre fin à la relation. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absurde et effectivement de complètement destructeur, hein, dans le fait d'exiger systématiquement et que les dettes soient réglées intégralement avec leurs intérêts, bien évidemment. Alors, ça c'est pour donner un peu une idée effectivement du type d'échange finalement qui trouve plutôt grâce à ses yeux.
Alors, en fait, c'est des échanges qui existent toujours dans notre société.
Qui existent, bien entendu. Mais la plupart, une foule d'échanges qui fonctionnent de cette manière-là. Il y a beaucoup de raisons d'être un peu découragé quand on lit son livre. En même temps, il y a aussi des choses qui permettent de garder un peu espoir en disant que finalement ces histoires c'est vraiment une espèce de balance, quoi. C'est-à-dire que tantôt on a des sociétés dans lesquelles ce qui domine c'est les intérêts des créditeurs, tantôt c'est ce qui domine c'est l'intérêt des débiteurs. Et d'après lui, la crise dans laquelle on se trouve là, bon, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement ce concept de dette, il est au fond partout dans la merde où on est, hein. C'est-à-dire que il vaut à toutes les échelles, nord-sud, dette publique, dette des particuliers, c'est quand même le ressort numéro un du capitalisme, financier, mais aussi industriel. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment central. Et son idée, c'est qu'au fond, on est actuellement dans une période, mais qui normalement ne devrait pas durer indéfiniment. Alors le problème, quand il dit indéfiniment, lui, il raisonne sur des périodes de plusieurs siècles, hein, mais donc c'est un optimisme qui est modéré. Mais
5000 ans d'histoire, quand même. Hein, donc,
mais on est un petit peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire que, au fond, la matrice de ce système-là, eh ben, c'est actuellement la fin de la convertibilité du dollar en or, d'après lui. C'est-à-dire, c'est le rapport impérial que les États-Unis ont à l'égard du reste du monde. Hein. Il rappelle des choses qui ne sont pas si vieilles. Hein. Le fait que la dette américaine, elle a d'abord été rachetée massivement, comme par hasard, après 71, par tous les pays vassaux des États-Unis, le Japon, la Corée, l'Allemagne de l'Ouest.
En autre temps, on appelait ça un tribut.
Ben exactement. Voilà. Donc, cette idée, c'est ça. C'est que le tribut sur lequel fonctionnent les échanges économiques aujourd'hui, c'est celui-là, hein, d'après lui.
Un tribut, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit à quelqu'un qui nous domine. Et alors là, on l'appelait dette, sauf que jamais personne ne s'est jamais inquiété du fait que les États-Unis ne la remboursaient absolument pas. C'est le putain de dette. Et donc, c'est pour ça qu'il va parler de tribut ici, c'est-à-dire de ce qu'on doit voilà, à notre suzerain. Mmh. Et c'est vraiment intéressant parce que justement, il part de cette idée-là. Voilà, on doit rembourser ses dettes, maintenant, pas tout le monde.
Mmh. Bien sûr.
Voilà. Les États-Unis, ils n'ont pas de dettes.
Non, ils n'ont pas de dettes.
En réalité, ils sont beaucoup plus endettés que la Grèce, par exemple. Mais le FMI n'aurait pas tombé dessus, ne leur a pas demandé de faire ceci, de faire cela. Mais c'est parce que les États-Unis, c'est les États-Unis. Voilà, on peut quand même pas agir avec eux comme on agit avec les Grecs. Mmh. Donc on peut ruiner les Grecs, on peut leur demander de fermer leurs écoles, leurs cinémas, leurs informations, tout ça. Mais c'est pas grave s'ils sont juste moins endettés que les États-Unis. Mmh. Alors, on peut pas demander la même chose quand même aux States.
Voilà. Donc voilà. Bon, on espère vous avoir donné un peu une idée, un peu précise de tout ce que vous pouvez trouver dans ce livre-là, qui est une vraie mine hein, quand même. Faut le dire.
Si ce genre de sujet vous intéresse, lisez-le. C'est passionnant. Vraiment, donc David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire au lien qui libère, c'est facile à lire, c'est gros quand même, faut le savoir, c'est un gros bouquin.
Faut un peu de temps.
C'est un peu cher, ça fait 30 euros, mais vous pouvez peut-être le trouver en bibliothèque, autrement peut-être que vous pourrez le trouver aussi à Publico si vous avez un peu plus d'argent, et vous n'endettez pas pour l'acheter, ce serait dommage. Voilà, donc c'est un bon bouquin, David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire, c'était Jeudi Noir. On va vous laisser pour Entre Chien et Loup, voilà, et là vous pourrez entendre Doom, Bury the Debt, Not the Dead, donc enterrer la dette et pas les morts. Et après, si on a un petit peu de temps, vous entendrez aussi un morceau de Fugazi, Merchandise. Voilà, à dans deux semaines.